Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Frédéric Maury, rédacteur en chef à Jeune Afrique, nous recevons Mohamed El Khetani, le PDG du premier groupe financier marocain, Attijari Wafa Bank. Bonjour Mohamed El Khetani.
Bonjour.
D'abord deux mots sur votre parcours, vous êtes un pur banquier. Tout votre parcours s'est fait dans la banque et dans la banque marocaine qui plus est. Pourtant, vous avez une formation d'ingénieur puisque vous avez étudié à l'École nationale supérieure de techniques avancées à Paris. Pourquoi cette bifurcation de l'ingénieur au banquier ?
C'est vraiment un pur hasard. J'étais destiné à l'industrie. J'ai même signé un contrat avec l'Office chérifien des Phosphates pour démarrer ma carrière industrielle au sein de cette institution. Et puis, par un pur hasard, je tombe sur un quotidien où la Banque commerciale du Maroc dans le temps cherchait un ingénieur industriel pour prodiguer des conseils dans l'évaluation des projets d'investissement. Et je me suis dit, je vais aller voir de quoi il s'agit. Et finalement, deux jours après, j'étais pris par cette banque et j'ai fait toute ma carrière au sein d'Attijari Wafa.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
C'est un secteur qui est extrêmement ouvert et très diversifié. Et puis, venant du monde de l'ingénierie, je devais tout apprendre de A à Z. Et j'ai fait toute mon école bancaire et financière et économique au sein de la banque. Donc, c'était pour moi un challenge à 24 ans pour apprendre un nouveau métier. Mais ce métier était très ouvert puisqu'il est ouvert à tous les secteurs d'activité, à tous les segments de clientèle, en interaction avec le monde. Donc, c'est quelque chose qui m'a emballé dès le départ. Et finalement, j'ai fait toute ma carrière au sein de cette institution.
Ça pourrait ressembler à un slogan commercial. La banque, c'est une passion pour vous ?
C'est une passion, effectivement. C'est une passion et ça continue de l'être.
Au cours de cette émission, Mohamed El Khetani, Frédéric Maury et moi-même, nous allons vous interroger sur votre banque, son rôle dans l'économie marocaine, dans l'économie de la région, le Maghreb, et puis aussi en Afrique de l'Ouest, car Attijari Wafa Bank est le premier banquier de cette région d'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons aussi des défis que doit relever le système financier international, dont vous faites partie, et les accusations auxquelles il doit parfois faire face. Première question, Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Monsieur El Khetani, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dites que vous avez une passion pour la banque, mais la banque, c'est vraiment pas un métier populaire du tout. En général, les banquiers sont assez mal vus, surtout ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel genre de banque vous dirigez ? Quel genre de banque est Attijari Wafa Bank ? Et en quoi, selon vous, elle est finalement peut être plus populaire ou dans son activité que ce qu'on peut croire parfois ?
Effectivement, Attijari Wafa Bank, elle a la particularité d'être avant tout une entreprise citoyenne, parce qu'elles s'imprègnent des problématiques qui se posent dans notre pays, le Maroc. Et moi-même, ça fait 32 ans que j'ai évolué au sein de cette institution. Et tous ceux qui m'ont formé et qui ont formé notre génération à la banque nous ont formés sur des valeurs de militantisme économique, parce que le Maroc était un jeune pays en construction, en plein développement, avec des ambitions fortes d'émergence. Et tout ça était une source de motivation pour les jeunes générations des années 70 et 80 de relever ce défi du développement et d'y contribuer.
Donc c'est quoi, une banque au service de l'économie, c'est ça que vous voulez dire ? Mais ça, c'est le slogan habituel. Est-ce que c'est pas aussi une banque qui spécule comme on
Non, justement, il faut pas faire l'amalgame, parce qu'aucune banque africaine n'a été à l'origine de la crise financière et bancaire internationale de 2008. Bien au contraire. Nous demeurons des banques commerciales vraiment orthodoxes dans nos approches, et nous centrons la quasi-exclusivité de nos activités à financer et à accompagner nos clients. Nous finançons l'économie réelle, Nous ne développons pas ni de produits spéculatifs et nous n'avons pas une activité de trading en propre qui est significative par rapport à nos tailles de bilan.
Alors justement, Mohamed El Khetani, vous avez présenté cette semaine, au début de la semaine, les résultats de l'exercice 2014. Ce sont des résultats que vous avez qualifiés de solides, bénéfices en hausse de 5,2%. Qu'est-ce qui génère cette hausse ?
Alors, cette hausse, malgré une conjoncture relativement atone au niveau de la région, nous avons pu quand même enregistrer une croissance du chiffre d'affaires de 8,8%, puisque le produit net bancaire s'est accru de 8,8%, et le résultat net par du groupe s'est accru de 5,2% à 440 millions d'euros à peu près. Et ceci, cette performance, elle est due essentiellement à la robustesse du modèle économique sur lequel opère Tigéri Wafa Bank, qui est un modèle de groupe bancaire et financier intégré et diversifié.
Ça veut dire quoi ?
Diversifié sur les segments de clientèle, puisque nous servons les clients à faible revenu, et je peux vous en parler après, puisque nous développons le concept de banque économique à bas coût, et nous allons jusqu'à la clientèle privée très haut de gamme. Nous finançons la très petite entreprise jusqu'aux grands groupes et multinationales structurées. Et nous avons une diversification territoriale. Parce que, outre le Maroc, je vais y revenir certainement après, cette diversification territoriale fait que ce groupe qui est fortement diversifié, même s'il y a des problèmes qui peuvent toucher certains secteurs d'activité ou certains segments de clientèle ou certains territoires, le fait d'avoir cette diversification et une palette de produits et services très divers fait que nous enregistrons une croissance de nos activités, de nos résultats qui est satisfaisante dans le contexte régional que vous connaissez.
Et globalement, la banque en Afrique, c'est une activité qui croît de manière assez soutenue, c'est ça ?
Tout à fait. L'Afrique aujourd'hui, alors que nos investissements sont récents, parce que nous avons fait nos premiers pas en Afrique il y a 9 ans à peu près. Et durant les 9 dernières années, nous avons quand même acquis 13 banques dans 13 pays africains.
Alors, on va y revenir tout au long de cette émission, mais revenons sur les multinationales dont vous nous dites que vous travaillez avec elles. Quelles sont-elles ? Est-ce que ce sont des multinationales strictement marocaines ou est-ce qu'il y en a d'autres ?
Non, c'est vraiment les multinationales au sens large du terme, puisque l'intérêt est de construire un dispositif panafricain. Le sens, c'est d'avoir un interlocuteur unique par rapport à des grands opérateurs, que ce soit des opérateurs africains transnationaux ou des multinationales européennes, américaines, chinoises, asiatiques.
Quelques noms ?
Qui opèrent sur vous avez le groupe, je peux citer le groupe Total, le groupe Alstom, des multinationales chinoises, Huawei, le fournisseur de télécom, etc. Donc, tous ces grands opérateurs qui interviennent sur plusieurs pays en Afrique ont besoin d'une banque panafricaine de référence qui leur facilite le cash management, donc la gestion de trésorerie, le cash pooling, mais en même temps de les accompagner de manière optimisée au niveau de leur financement, que ce soit des opérations du commerce extérieur ou de leur projet de développement, de leur projet d'investissement. Ça facilite la tâche. Et le fait d'avoir ce dispositif qui est en train d'élargir sa capillarité en Afrique nous rend un partenaire crédible pour ces opérateurs transnationaux.
Frédéric Mori.
À Tijari Wafa Bank, c'est la première banque du Maroc, une des premières banques en Afrique de l'Ouest. Et je crois qu'après les banques sud-africaines, c'est une des plus grosses banques d'Afrique, me semble-t-il. Votre actionnaire majoritaire, c'est la SNI, qui est le holding royal. Est-ce que c'est un atout pour une banque d'avoir la SNI comme actionnaire majoritaire ?
Je crois la chance de Tijari Wafa Bank, c'est d'avoir réellement un groupe actionnaire de référence extrêmement solide et qui dispose d'une gouvernance aux standards internationaux, puisque la SNI c'est un institutionnel. Dans le tour de table, il y a certes les intérêts de la famille royale, mais aux côtés, il y a des grandes institutions financières nationales, mais aussi des investisseurs internationaux. Et la SNI a été vraiment le premier groupe qui a mis en place une gouvernance aux standards internationaux, puisque le conseil d'administration est très diversifié, avec des administrateurs indépendants.
Tous marocains ?
Non, il y a des Marocains, il y a des étrangers aussi. Donc il y a des représentants du groupe Santander, qui est l'une des premières banques mondiales. Donc, et le fait d'avoir cette gouvernance moderne, puisque le conseil d'administration dispose d'un comité d'audit et des comptes, d'un comité de nomination et de rémunération et d'un comité stratégique qui challenge la vision stratégique du groupe SNI. Et la chance d'être Tigéry Wafa Bank, c'est d'avoir un groupe modèle qui lui a permis à elle-même, dès la fin des années 80, puisque je rappelle que l'ex-ONA est rentré dans le capital de la Banque commerciale du Maroc, l'ancêtre.
L'ONA, c'est aussi un holding royal. Hein.
Tout à fait, qui a fusionné avec la SNI, a fait que ça a donné des moyens financiers et une envergure financière, parce que s'agissant d'une banque, aujourd'hui, le fait que les fonds propres sont le levier le plus important du développement, il faut disposer d'actionnaires crédibles et solides qui peuvent accompagner votre développement.
Mais c'est le cas. La SNI a annoncé qu'elle allait se désengager en partie du capital de Tigéry Wafa Bank et a priori ce serait en cours. Est-ce que ça c'est un facteur d'inquiétude pour vous que votre actionnaire de référence veuille diminuer sa participation dans le groupe que vous dirigez?
Sincèrement, depuis le mois de mars 2010, la SNI a annoncé son plan de redéploiement sous la conduite du président du groupe, de l'actionnaire de référence, qui est M. Mounir El-Majidi, qui a annoncé donc les grandes orientations et le redéploiement du groupe vers un fonds d'investissement à long terme. Et il a annoncé le désengagement des positions majoritaires du secteur agro-industriel, et ils ont réalisé les cessions au niveau de leur position dans la centrale laitière au profit du groupe Danone. Ils ont vendu leur position dans la raffinerie d'huile, les huiles, au profit du groupe Sophie Proteol. Ils ont cédé aussi leur participation dans Cozumar, la raffinerie du sucre, un groupe singapourien, Wilmar. Et ils continuent donc à exécuter cette vision.
Donc ils vont le faire avec Tigéry Wafa
Bank. Pour ce qui est Tigéry Wafa Bank, et ça a été dit officiellement par la SNI, c'est que la SNI dispose aujourd'hui de 48,5% du capital de Tigéry Wafa Bank, et elle veut céder une partie.
Combien?
De ce capital. On parle de 10 à 20% maximum, pour demeurer le premier actionnaire de référence de Tigéry Wafa Bank.
Ce que vous nous dites, ce que j'entends à travers votre discours, c'est que le capitalisme marocain est un capitalisme transparent et vertueux. C'est ça que vous nous dites?
Non, ce que je veux dire en toute sincérité, c'est que nous, en ce qui concerne Tigéry Wafa Bank et son actionnaire de référence, l'actionnaire de référence a pris des options stratégiques à long terme, qu'il a affiché et qu'il a exécuté. Et le fait de s'inscrire en tant que l'ASNI, je parle de l'ASNI, puisqu'il l'a annoncé officiellement, de s'inscrire en tant que fonds d'investissement à long terme, qui déploie ses capitaux pour développer des projets fortement capitalistiques, que le capital privé familial marocain ne peut pas assumer. Vous savez, se lancer dans des projets de l'énergie, aujourd'hui, quand l'État marocain lance des appels d'offres internationaux, vous avez les grands groupes internationaux qui viennent concourir et vous n'avez pas de groupe marocain qui concourt. Pourquoi ? Parce que c'est des projets fortement capitalistiques qui nécessitent des fonds propres importants et une rentabilité à très long terme. La SNI
Ce qui veut dire qu'à part la SNI, il n'y a pas forcément de capitalisme marocain de taille suffisante pour pouvoir, entre guillemets, concurrencer ou résister
aux grandes multinationales, s'agissant de grands secteurs d'activité consommateurs de fonds propres, ouais, et dont la rentabilité est à très long terme.
Par exemple, l'énergie, voilà, vous disiez.
L'énergie, par exemple.
Les transports?
Non, l'énergie. Hein. Ils ont opté pour l'énergie, les télécoms et la finance, mais en donnant une dimension importante à l'Afrique. Parce que le groupe l'a annoncé, il veut faire de l'Afrique un levier important de son développement.
Est-ce que ce n'est pas une grande faiblesse qu'il n'y ait qu'une source de financement en capitaux privés dans le pays?
Non, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons un secteur privé qui est extrêmement dynamique au Maroc. Il couvre tous les secteurs d'activité. Mais il se trouve que dans des créneaux d'activité bien spécifiques, aujourd'hui, nous n'avons pas généré des groupes familiaux de taille suffisante pour, par exemple, engager des projets d'investissement de 2 ou 3 milliards de dollars. Installer une grande centrale électrique de 1000 mégawatts aujourd'hui n'est pas à la capacité du capital privé marocain. Mais nous avons d'autres groupes privés relativement importants, comme le groupe Financecom, qui est dans la banque et qui est dans les télécoms. aussi. Mais ça demeure quand même relativement limité.
Une des impressions qu'on peut avoir sur le Maroc, quand on décrypte un peu l'économie marocaine, c'est quand même une espèce d'économie ou de société qui est souvent présentée comme à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté des groupes, donc vous parliez de Financecom, on parlait de la SNI, où il y en a d'autres, qui sont assez performants, relativement occidentalisés dans leur méthode de management, assez voilà, qui sont capables de résister aux multinationales, et puis toute une série de PME familiales, petites entreprises, pas forcément très bien structurées, et de la même manière, on aurait une élite très bien formée, et puis une grande partie de la population qui le serait beaucoup moins. Est-ce que finalement l'économie marocaine, ça reste pas encore aujourd'hui une économie à deux vitesses?
Alors, c'est une question extrêmement pertinente qui nous a toujours intéressé, nous, en tant qu'opérateurs bancaires. Il faut dire, si vous analysez finement le modèle socio-économique du Maroc, vous allez voir que durant les 15-20 dernières années, c'est un modèle socio-économique qui est en pleine mutation, qui s'est transformé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'indépendance, le Maroc, c'était des petits agriculteurs, de grands propriétaires fonciers et des commerçants. Il n'y avait pas réellement une élite industrielle. Et il fallait générer cette élite industrielle, petit à petit. Donc nous sommes une jeune économie. Et ce qui a été fait durant les 20 dernières années, grâce à des réformes extrêmement profondes, qui ont touché le dispositif institutionnel au niveau du pays, parce que pour favoriser l'investissement et donner la chance au maximum de Marocains à investir, mais aussi d'attirer les investissements directs étrangers sur le Maroc, il fallait renforcer le dispositif institutionnel au niveau du pays. Donc vous avez le Conseil de la concurrence, vous avez les régulateurs, que ce soit dans le secteur financier, dans le secteur des télécoms, etc. Et le Maroc s'est attaqué au doing business, l'environnement des affaires, pour améliorer le climat des affaires. Mais parallèlement, quand bien même vous avez cette volonté, si vous n'avez pas résorbé les déficits en infrastructure, et nous le vivons dans un certain nombre de pays en Afrique subsaharienne, vous ne pouvez pas justement développer l'investissement. Et le Maroc s'est attaqué de manière frontale et audacieuse à la résorption du déficit en infrastructure. Et aujourd'hui, entre les ports, les aéroports, les autoroutes, les centrales électriques, etc., le Maroc est au standard international.
Là vous décrivez une société qui a évolué, mais vous ne répondez pas
non,
sur les deux vitesses.
Non, je vais vous répondre de manière très pragmatique. Parce que moi, j'ai vécu cette transformation au sein de la banque pendant 32 ans. Aujourd'hui, quand vous revenez au fonds de commerce de Tijari Wafabank, puisque sur 16 banques commerciales, nous avons une part de marché de 27-28% globalement, toutes activités confondues. Donc, en termes statistiques, nous sommes un échantillon significatif. Ce qui se passe chez nous, on peut donner des tendances lourdes au niveau de la société et de l'économie nationale. Nous avons quand même, sur les 20 dernières années, il y a eu une éclosion de très petites entreprises qui sont devenues des PME, des PME familiales qui sont devenues des grandes entreprises, et même des grandes entreprises familiales qui se sont introduites en bourse et qui ont pris une dimension régionale. Donc, le Maroc a élargi durant ces 20 dernières années, grâce à différents programmes, parce qu'il y a les stratégies sectorielles, il y a l'initiative nationale pour le développement humain, etc. Tout ça a fait que on a élargi l'assiette des classes moyennes, on a élargi l'assiette des très petites entreprises et des PME-PMI dans différents secteurs d'activité. Et Dieu merci, c'est grâce à cette diversification, à cette transformation de l'économie nationale, qu'on est passé d'un palier de croissance annuelle moyen du PIB durant les années 70-80 qui était de l'ordre de 3%. Sur les 10 dernières années, on est dans un palier de 5% de croissance annuelle moyenne. Et l'ambition, c'est d'aller au-delà de 6%.
Ce que vous nous dites, c'est que le Maroc est en train d'émerger.
Tout à fait. C'est le cas. Il est en train d'amplifier tous les ingrédients qui lui permettent justement de rejoindre la classe des pays émergents.
Un des défis, c'est la création d'emplois au Maroc, comme dans d'autres pays.
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Ce qui a été fait grâce à ces trains de réforme dont j'ai parlé, et grâce aux stratégies sectorielles et grâce au développement des investissements dans le secteur privé, que ce soit national ou international, on a réduit le chômage sur ces 10 dernières années de 14% à 9%. 9%, ça demeure élevé, je vous l'accorde. Et ça, c'est un défi qui se pose à tous les pays au niveau mondial. Donc, nous continuerons sur la voie, justement, de la création d'entreprises, de l'investissement pour résorber le chômage.
Eh bien, nous continuerons cette conversation dans la deuxième partie de cette émission, car la première est terminée. Nous vous retrouvons, Mohamed El Khettani, dans quelques instants, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique est Mohamed El Khetani, le PDG de la première banque marocaine, Attijari Wafa Bank. Au cours de la première partie de cette émission, Mohamed El Khetani, vous nous avez dit qu'Attijari Wafa Bank était une banque citoyenne, vous avez évoqué son militantisme économique et vous nous avez dit que le Maroc était en train d'émerger sur le plan économique. Alors, revenons aux grandes affaires bancaires. L'une des affaires qui a ébranlé ce monde, votre monde, ces dernières semaines, c'est l'affaire SwissLeaks, à laquelle est mêlé un des géants mondiaux, HSBC, qui a protégé et favorisé, même développé, la fraude fiscale, l'évasion fiscale de ses clients. Je suppose que vous allez nous dire qu'Attijari Wafa Bank n'a pas ce genre de pratique, que vous ne participez en aucun cas à ce qu'on appelle l'évasion fiscale.
Tout à fait. Vous savez que dans la presse internationale, dans les médias, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. À chaque fois qu'il y a eu un scandale à l'échelon international qui touche des personnalités sensibles, etc., ce n'est jamais une banque africaine qui a été pointée du doigt. C'est toujours des très grandes banques internationales, malheureusement. En ce qui concerne Attijari Wafa Bank, la banque que je dirige, nous répondons à toutes les exigences en termes de conformité et de transparence. Parce que nous avons un régulateur, la Banque Centrale au Maroc, qui a... on lui doit beaucoup. Sincèrement, on lui doit beaucoup. Si le secteur bancaire marocain a traversé la crise de 2007 et 2008 sans dégâts, c'est parce que nous avons une régulation prudentielle extrêmement exigeante. La profession bancaire au Maroc, il y a 15 ans, quand la Banque Centrale a initié les premières exigences prudentielles de Bâle 1, on était contre. La profession bancaire a riposté en disant le Maroc n'est pas à un niveau de développement qui lui permette d'être dans le confort d'adopter de telles règles prudentielles. Ça va générer des investissements importants, ça va nous inciter à nous ouvrir sur des métiers nouveaux, etc. Banque Maghrib, la Banque Centrale, a tenu tête et finalement, ça nous a permis de conforter les assises du contrôle et de la conformité et de la transparence, mais aussi à solidifier l'assise du secteur bancaire marocain. Donc, je vous confirme que nous répondons à toutes les exigences du code d'éthique et de déontologie et de transparence exigées par notre régulateur.
Question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
L'évasion fiscale, c'est quand même un drame dans beaucoup de pays du monde, mais c'est un drame très important en Afrique, puisque c'est beaucoup de capitaux qui quittent le continent, qui participent pas au financement des budgets publics, etc. Et voilà, l'Afrique est très concernée par ce phénomène, qui est quand même auquel les banques participent. Qu'est-ce que alors je ne parle pas de votre cadre personnel, mais de manière plus générale, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette évasion fiscale s'arrête et que les banques arrêtent de participer ou de favoriser ce type de pratique?
Tout à fait. Je crois que la régulation à l'échelon international est en train d'aller dans le sens du renforcement du dispositif du contrôle de cette évasion fiscale, puisque je parle de mon pays que je connais le mieux. Nous avons rejoint le forum mondial de la transparence, qui est une plateforme entre les pays pour échanger les renseignements d'ordre fiscal et contrer l'évasion fiscale potentielle entre ces pays-là, entre les résidents de ces pays-là. Et comme vous le savez, le Maroc a engagé une amnistie en 2014, qui a été un succès total. Le gouvernement avait projeté de rapatrier...
Vous pouvez juste expliquer ce qu'est cette amnistie.
Alors, l'amnistie qui a été lancée par le Maroc, début 2014, le gouvernement marocain a pris une décision courageuse, c'est de permettre aux Marocains résidents fiscaux au Maroc et qui ont des avoirs à l'étranger, placés en dehors de toute réglementation de change...
Ce qui est illégal.
Illégal, complètement illicite, sauf à disposer d'une autorisation de l'office d'échange. Parce qu'il y a des Marocains qui ont des comptes à l'étranger, qui investissent à l'étranger, mais avec une autorisation préalable des autorités de change. Alors tous ceux et toutes celles qui disposaient des avoirs, biens immeubles, instruments financiers ou cash dans les banques internationales et à l'étranger, ils avaient cette opportunité. Et le gouvernement avait s'attendait à un objectif de réaliser un objectif de 5 milliards de dirhams, disons 500 millions d'euros. En fin de compte, il y a eu une mobilisation générale. Cette opération a été confiée au secteur bancaire. Et sous la loi prévoyait l'anonymat. Vraiment, elle a conforté donc les déclarants potentiels de cette de ce privilège. Et finalement, il y a eu pratiquement 19 000 déclarants. Et on a atteint 27 milliards, disons 2 milliards 800 millions d'euros de déclarations entre avoirs immobiliers, entre avoirs financiers, cash et biens immobiliers.
On rappelle que c'est une amnistie, c'est-à-dire c'est ces Marocains qui avaient de l'argent à l'étranger de manière illégale ont eu l'autorisation de le rapatrier.
De manière transparente et...
En payant quelque chose.
En payant une contribution qui oscillait entre 2,5% et 10%. Du montant des avoirs selon la nature des avoirs.
Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour d'autres pays africains pour faire revenir de l'argent?
Justement, ça peut inspirer d'autres pays, mais l'essentiel, c'est qu'une fois qu'on a fait cette amnistie, c'est de renforcer les dispositifs de contrôle et que le secteur bancaire doit être extrêmement vigilant. Et c'est là où je reviens à la régulation. Ça, c'est le rôle des régulateurs, des banquiers centraux, pour mettre en place des dispositifs de contrôle, des transferts de fonds de manière illicite.
Mohamed El Khetani, vous nous dites que vous travaillez beaucoup avec des multinationales qui sont souvent accusées, très souvent accusées, de procéder à ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Comment est-ce que vous, banque panafricaine, qui travaillez avec des sociétés multinationales, vous pouvez échapper à ces pratiques d'optimisation fiscale ?
C'est une question extrêmement importante. Nous, quand nous traitons avec les multinationales, dans les territoires où nous sommes présents, c'est soit à travers leurs filiales qui opèrent dans les territoires où nous opérons, ou à travers des plateformes de la maison mère à l'extérieur même des territoires au sein desquels nous opérons. Et notre obligation, nous, en tant que banque, c'est d'accompagner ces multinationales dans le financement de leurs transactions commerciales ou dans le financement de leurs investissements. Et nous ne nous incombe pas, nous, en tant que banque, de remettre en cause les mécanismes d'optimisation fiscale qui concernent la comptabilité de ces entreprises.
Vous ne les contrôlez pas, ça voulait dire.
Oui, nous ne sommes pas des inspecteurs du fisc.
Mais cette évasion, elle passe souvent par des paradis fiscaux, de manière...
On n'est pas concerné.
En quasi-totalité, est-ce que vous avez des filiales dans les paradis fiscaux?
Non, du tout. On n'est pas concerné du tout. Nous, quand nous avons acheté à Tigeri ou à Fabank, et nous le déclarons dans les notes d'information, puisque nous émettons dans le marché financier des obligations, quand nous avons acheté la CBAO, notre filiale sénégalaise, l'ancien propriétaire de CBAO disposait de sociétés qui portaient les actions de la CBAO dans des paradis fiscaux pour optimiser la fiscalité. Et nous avons racheté la CBAO à travers ces sociétés qui se trouvent, c'est le seul cas que nous avons,
et
qui porte exclusivement, tout à fait, qui porte exclusivement les actions de CBAO à la connaissance des autorités monétaires du tutelle.
Alors Mohamed El Khetani, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez très implanté en Afrique de l'Ouest. L'Afrique subsaharienne, c'est encore à bien des égards un désert bancaire. Écoutez le témoignage de Fatouma Taba, la directrice générale de Jumia Côte d'Ivoire. Jumia, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, c'est une société de e-commerce qui se développe très très rapidement, en particulier au Nigeria, où elle a déjà 2000 salariés. Fatouma Taba au micro RFI de Gaël Lalex.
Sur la question du paiement par exemple, ça vous paraît peut-être une hérésie, mais entre 80 et 100% de nos paiements selon les pays se font en espèces à la livraison, parce que tout simplement, premièrement, il y a un problème de confiance, il y a énormément de cybercriminalité par exemple en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, et les personnes n'ont pas envie de donner leurs coordonnées bancaires. Ensuite, parce que ce sont des moyens de paiement qui sont quelquefois clivants, puisque le taux de bancarisation est encore faible. En Côte d'Ivoire, il est entre 10 et 20%, et Jumia n'est pas un business de niche. Donc il a fallu s'adapter et innover de manière assez pragmatique, mais de manière assez simple et audacieuse finalement.
Est-ce qu'on peut régler par Jumia avec le mobile money ?
Absolument, ça c'est quelque chose qui est fondamental. L'Afrique est vue quelquefois comme en retard sur bien des sujets. Sur la question du mobile en général, c'est le contraire. La success story du paiement mondial, elle n'est pas dans la Silicon Valley, elle n'est pas à Shenzhen, elle est au Kenya avec M-Pesa. C'est la success story la plus commentée à l'échelle mondiale. Et de la même manière, les consommateurs africains n'ont pas eu eu tout de suite accès à Internet fixe, par contre, ont eu des smartphones. Donc, ils utilisent énormément les mobiles pour acheter. Par exemple, on est à plus de 50% des commandes depuis le mobile. Au global, chez Jumia et au Nigeria, on est plus proche de 60%.
Est-ce que vous pensez qu'à terme, l'avenir du système bancaire en Afrique, ça va pas du tout passer par la carte, mais peut-être plutôt par le portable?
Absolument, c'est beaucoup moins clivant. Les réseaux bancaires, aujourd'hui, beaucoup de grands groupes sont implantés, beaucoup de groupes locaux se créent, mais la réalité est que dans l'espace de 10 ans, ils gagnent peut-être 1 point, 5 points de taux de bancarisation, alors que le mobile ou Internet connaît des taux de croissance absolument fulgurants. Pour nous, c'est un potentiel, certes, mais c'est surtout une réalité. Le mobile est vraiment une plateforme d'avenir pour le continent africain, pour les paiements et pour l'achat en ligne.
Mohamed El Khetani, vous êtes le patron de Attijari Wafa Bank au Maroc et Frédéric Maury de Jeune Afrique vous pose une question sur cette réalité bancaire africaine.
Et on voulait vous faire réagir à ces propos de Fatouma Taba, donc la patronne de Jumia en Côte d'Ivoire, et qui nous dit, voilà, qui décrit la faible bancarisation, c'est-à-dire il y a peu d'Africains qui ont des comptes en banque, et par contre, il y a beaucoup d'Africains qui ont des téléphones, et de plus en plus de paiements, de services financiers passent par le téléphone. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, et est-ce que vous voyez les opérateurs télécoms comme des concurrents des banques?
Effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit cette dame.
Fatouma Taba de Jumia.
Voilà, de Jumia et je félicite sincèrement les dirigeants de Jumia parce que je les ai vus à l'œuvre. C'est une jeune entreprise qui se développe et qui croît très très vite et qui croît et qui crée beaucoup d'emplois. Donc je reviens à cette problématique de la bancarisation. Le même problème on l'a vécu il y a une vingtaine d'années au Maroc. Le Maroc était sous-bancarisé. Et grâce à des efforts déployés par le secteur bancaire, aujourd'hui en 20 ans, alors qu'on avait un taux de bancarisation de moins 20%, on est à 65% à fin décembre 2014. Parce qu'on est investi dans la capillarité. Je vous donne l'exemple de Tijari Wafa Bank. Au Maroc, nous disposons de 2636 agences. Quand dans certains pays d'Afrique subsaharienne, tout le secteur bancaire ne dépasse pas 100 agences. Pour vous donner une idée. Et nous continuons à ouvrir des agences. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand nous nous déployons en Afrique subsaharienne, nous donnons l'un des axes majeurs de notre stratégie, c'est la bancarisation. Nous ouvrons, chaque année, nous doublons notre capillarité dans nos filiales en Afrique subsaharienne.
Mais qu'est-ce que vous appelez la capillarité ?
C'est d'aller vers les clients, d'ouvrir des agences. Parce que malheureusement, ce qu'on a constaté sur un siècle et demi d'existence de banques internationales en Afrique, ces banques avaient des approches corporettes. Ils avaient de grandes succursales
dans les capitales,
en nombre très limité dans les capitales, et qui s'intéressaient au business des multinationales et à la bourgeoisie locale et aux grandes entreprises familiales locales. Les classes moyennes, les salariés, les fonctionnaires, les TPE, les PME étaient livrés à l'informel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau panafricain qui est en construction, des banques panafricaines, c'est un réseau de proximité. Donc ce modèle qui nous a réussi au Maroc, c'est ce qui nous motive aujourd'hui et nous passionne à investir en Afrique subsaharienne. Mais pour rattraper le retard très très vite, parce qu'il y a les problématiques d'infrastructure, quand bien même vous voulez augmenter la densité de votre réseau d'agences dans un pays donné, si vous n'avez pas des connexions routières, comment vous transportez les fonds?
Oui, les gens peuvent pas venir dans les agences. Donc les télécoms,
donc,
justement,
les télécoms joueront un rôle extrêmement important.
Justement.
Donc le mobile banking est une solution qui va accélérer le développement. Et moi, je ne
donc
vois
c'est
pas
des concurrents pour
les
vous.
Sociétés de télécommunications comme concurrents. Mais nous devons être complémentaires.
Parce que vous semblez vous développer malgré tout sur un modèle très classique de banque à l'européenne. Vous nous disiez oui. Le nombre de succursales que vous aviez au Maroc, les ambitions que vous avez en termes de succursales dans les pays d'Afrique subsaharienne. Pourquoi n'êtes-vous pas plus innovant? Est-ce que vous-même, vous ne développez pas le banking money
Nous développons le
paiement par carte
oui,
ou le paiement par téléphone.
Alors, le paiement par carte, nous développons le paiement par carte, le paiement par téléphone et le paiement sur Internet. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui se déploient dans nos réseaux bancaires. C'est un axe extrêmement important.
Vous
n'avez
pas l'impression d'être dépassé par les opérateurs télécoms sur ces sujets-là? Fatoumata parlait M-Pesa. M-Pesa, c'est un opérateur télécom
oui,
et c'est les leaders du transfert d'argent.
Oui,
si
vous faites une analyse très fine de toutes ces expériences, il y a quelle expérience M-Pesa qui a bien fonctionné? Voyez, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a des opérateurs, je ne vais pas annoncer les marques. Vous connaissez les opérateurs télécoms qui ont initié des activités de mobile banking aujourd'hui, mais sans un réseau bancaire complémentaire, vous n'allez pas loin. Pourquoi? Parce qu'il faut la confiance. Et au-delà de ces solutions de mobile banking, pour l'activité des TPE et des PME, la clientèle des TPE et des PME, ils ont besoin d'un point de vente physique parce que on ne traite pas uniquement le transfert de fonds. Monter un dossier de crédit, accompagner le financement des besoins en fonds de roulement, discuter ou conseiller un client pour l'accompagner dans le financement de ses projets d'investissement, il faut bien une plateforme physique avec des experts qui l'accompagnent. Vous ne pouvez pas traiter ça sur Internet ou sur le mobile banking. Le mobile banking apportera des solutions certainement aux ménages, aux citoyens non bancarisés et qui trouvent des difficultés à manipuler le cash pour satisfaire un certain nombre de transactions. Et ça, nous l'adressons aujourd'hui à travers une offre de service mobile banking. Et le mobile banking va se développer de manière importante au niveau de notre continent, que ce soit à travers une offre des opérateurs télécoms ou des offres des opérateurs bancaires alliés à des opérateurs télécoms.
Mohamed El-Khetani, vous nous disiez que vous étiez présent dans 13 pays d'Afrique subsaharienne. Vous êtes donc un bon connaisseur de la réalité économique de cette région. Les prix du pétrole ont beaucoup baissé ces derniers mois. Ils ont perdu presque 50% de leur valeur. Les pays africains qui en produisent en subissent le contre-coup. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos activités, un ralentissement économique de la région ?
Alors, il faut distinguer effectivement deux catégories du pays. Les pays importateurs nets de pétrole, où l'impact est très favorable sur leurs finances publiques, et vous avez les pays exportateurs de pétrole qui souffrent aujourd'hui d'une contraction de la croissance économique et qui se matérialise par un ralentissement au niveau des investissements publics qui devait conforter la relance de la demande intérieure au niveau de ces pays-là. Donc l'analyse est contrastée d'un pays à un autre. Mais globalement, d'après les prévisions de la Banque mondiale et du FMI qui vient d'être publiées, globalement, le taux de croissance économique demeurera à un niveau satisfaisant. Parce que là aussi, il y a une transformation progressive de ces économies. La croissance des années 90, avant la fin des années 90, était bâtie autour des matières premières. Mais aujourd'hui, ces pays sont en train de diversifier aussi leur modèle économique. Ce qui fait que la croissance économique enregistrée ces dernières années, sur les 10 dernières années, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, on est à un taux de croissance annuel moyen de 5%. Ça veut dire que ce sont des marchés intérieurs qui se sont en train de se développer et des économies qui se sont en train de se diversifier. Et ça, c'est la tendance lourde pour les années à venir.
Vous le ressentez, ce ralentissement? Alors, grosso modo, vous citiez deux schémas de pays. Il y a le Gabon et la Côte d'Ivoire, grosso modo. Gabon qui exporte du pétrole, la Côte d'Ivoire qui en importe.
Tout à fait.
Donc, est-ce que vous sentez, par exemple, au Gabon, un ralentissement économique ou dans ce type de pays-là? Est-ce que vraiment il est palpable déjà dans vos activités bancaires?
Dans nos activités, nous, on connaît un taux de croissance à deux chiffres.
Qui reste positif.
Pourquoi?
En Afrique de l'Ouest.
En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale aussi. Pourquoi? Parce que les besoins sont tellement énormes qu'aujourd'hui, avec le développement organique de nos activités, en acquérant de nouveaux clients, que ce soit pour la clientèle des particuliers, des activités de banque de détail, ou l'accompagnement des PME-PMI, aujourd'hui, nos activités se développent malgré, en dépit de ces difficultés économiques qui concernent les pays exportateurs de pétrole.
Alors, début février, Mohamed El-Khetani, a eu lieu à Paris un forum franco-africain pour une croissance partagée. Lors de ce forum, le président sénégalais Macky Sall a pris la parole pour regretter le cloisonnement du marché des capitaux en Afrique. On l'écoute.
Les pays africains restent toutefois handicapés par la rigidité des règles d'accès au marché des capitaux dans un contexte de raréfaction des ressources concessionnelles et de déclin de l'aide publique au développement. L'Afrique souffre également de primes, de risques trop élevés pour la mobilisation de capitaux privés. Alors que moi, je ne connais pas un seul pays africain qui ne rembourse pas sa dette. Il n'y a pas de risque absolu en Afrique. Il faut donc combattre cette situation pour permettre un accès beaucoup plus facile au marché des capitaux. Pour stimuler la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique, le moment est venu de prendre des initiatives novatrices, notamment par la réforme de la gouvernance financière internationale, pour plus de flexibilité des règles d'accès au crédit. Nous ne pouvons pas répondre à ces besoins si nous restons avec les mêmes schémas classiques de financement. Puisque les besoins sont nouveaux, le contexte a changé, il nous faut donc ensemble réfléchir sur de nouvelles modalités pour répondre aux exigences du moment.
Frédéric Maury.
Vous pensez quoi de cette difficulté d'accès au marché des capitaux pour les Africains?
Tout à fait. Je suis complètement d'accord et je l'ai toujours dit dans des forums internationaux ces dernières années, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité du risque en Afrique et la perception de ce risque. Et malheureusement, ce qui impacte les politiques de tarification des lignes de crédit sur l'Afrique, malheureusement, c'est la perception.
Mais
et
quand
c'est
on
pourquoi
voit
les primes de risque demeurent élevées.
Quand on voit ce qui s'y passe, Boko Haram, Acme,
oui,
comment éviter
oui, mais
ce phénomène?
Vous savez, c'est circonscrit. Les conflits, quand vous faites une rétrospective historique sur les 30 dernières années, le nombre de conflits au niveau de notre continent africain a diminué de manière sensible. Boko Haram aujourd'hui est très fortement médiatisé. C'est une réalité qui est là. Mais cette forte médiatisation n'existait pas il y a une trentaine d'années où les conflits faisaient des ravages au niveau de l'ensemble du continent africain. Donc, même les médias, ils ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, il faut circonscrire les problèmes. Je c'est pas un déni. Le problème, il est là, il existe. Mais n'empêche que nous, investisseurs, je prends le Tijari Orang, nous sommes un investisseur privé. Nous sommes très contents de nos investissements en Afrique, globalement. Parce que nous investissons dans des actifs que nous développons avec des rentabilités intéressantes. Les multinationales qui opèrent sur le continent africain aujourd'hui, ils ont des taux de rendement interne de leurs investissements extrêmement intéressants. Ça, c'est une réalité économique. Et il faut que le marché international des capitaux l'intègre. Il faut que les agences de notation aussi intègrent cette perception. Parce que moi, je trouve que les agences internationales sont un peu dures dans l'analyse au niveau du risque du continent africain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour, comme l'a dit le président Macky Sall, lors du Forum de Paris, il faut qu'il y ait de l'innovation financière en la matière pour attirer le maximum de capitaux. Et moi, je ne vois qu'une seule voie possible aujourd'hui, c'est de mettre en place des partenariats publics-privés solides pour financer les investissements en infrastructure, parce qu'il y a des besoins de 90 milliards de dollars par an pour les 10 années à venir. Est-ce que vous pouvez imaginer une économie africaine qui souhaite développer un modèle de croissance au-delà de 6% par an alors qu'elle a des problèmes de coupure d'électricité? C'est le sang au niveau d'un pays qui irrigue un pays. Un pays qui ne dispose pas de capacité électrique suffisante ne peut pas installer des industries de transformation pour valoriser ces matières premières. Donc il y a des besoins immenses, mais sans les contrats de partenariat public-privé aux standards internationaux et sans une gouvernance et une régulation qui répond là aussi aux standards internationaux, vous ne pouvez pas attirer les investissements, les investisseurs et internationaux et accéder au marché du capital. Nous l'avons fait, nous, en tant qu'opérateurs bancaires, en arrangeant des deals dans le cadre de concessions. C'est des contrats partenariats publics-privés et sur lesquels nous avons pu mobiliser le capital international à des conditions intéressantes. Pourquoi ? Parce que l'investisseur international a trouvé un cadre juridique fiable, il a trouvé un contrat équilibré en matière de partenariat public-privé et un projet d'investissement rentable, parce qu'il y a des besoins en énergie électrique, il y a un marché, il y a un acheteur, et ça permet de rentabiliser à long terme son investissement. C'est ce genre d'initiative qu'il va falloir développer à l'avenir.
Mohamed El-Khetani, il y a eu quelques nuages entre Paris et Rabat ces dernières semaines. Au cours de cette émission, nous avons évoqué la présence française et la présence marocaine au sud du Sahara. Est-ce que, économiquement parlant, sur ce plan-là aussi, il y a une concurrence, une rivalité entre le Maroc et la France sur les marchés africains ?
J'ai la chance de co-présider le club des chefs d'entreprise France-Maroc. Je représente avec Mme Saïd Al-Amrani la partie marocaine de la CGM, du patronat marocain. Et Jean-René Fourteau et Ertement représentent donc le MEDEF international. Et notre club des chefs d'entreprise est un club de réflexion stratégique. Comment asseoir un renouveau de la coopération économique maroco-française sur des bases nouvelles, sur des bases gagnant-gagnant, sur des bases équitables et respectueuses les uns des autres. Et on a abouti à un schéma qui a été défendu par les deux chefs d'État, il y a 2 années de cela, lors de la visite officielle du président Hollande à Rabat. C'est le schéma de le concept de colocalisation et de la coopération nord-sud-sud.
Donc c'est travailler, grosso modo, travailler ensemble
travailler
en Afrique.
Ensemble, parce que dans la chaîne de valeur, d'une filière industrielle donnée, il y a des choses qui peuvent être faites en France sur des bases très compétitives, des choses qui peuvent être faites au Maroc sur des bases très compétitives, et à nous deux nous pouvons aller ensemble vers les marchés internationaux avec une offre compétitive.
C'est très sympathique, mais la réalité du marché dans lequel vous évoluez, la banque, c'est une autre réalité. Votre principal concurrent, soyez honnête, c'est la Société Générale.
Dans le domaine de la banque, moi je parlais de toutes les filières.
Et dans le domaine de la banque, vous êtes bien en concurrence avec les Français.
Nous sommes concurrents, nous sommes confrères avant tout, nous nous respectons mutuellement, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes concurrents, effectivement. Mais il se trouve que sur les gros deals, nous pouvons syndiquer des opérations ensemble. Le continent africain, je le réitère, a besoin de toutes ces banques. Les banques du continent africain et des banques internationales, parce que les besoins sont énormes.
Laissez-moi vous poser une dernière question, Mohamed El Khetani. Vous êtes président dans la plupart des pays d'Afrique francophone de l'Ouest, mais pas au Nigeria, qui est pourtant la première puissance économique africaine.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Non.
En deux mots.
Dès que nous avons réalisé une belle fusion industrielle entre Atigeri Bank et Wafa Bank, nous avons engagé ce plan de croissance externe en Afrique. Et on a démarré la première étape par l'Afrique francophone, compte tenu de la proximité linguistique, culturelle, et les facilités et les complémentarités entre nos économies. Cette feuille de route aujourd'hui est bouclée. Nous engageons une deuxième étape, et cette deuxième étape, nous prospectons des opportunités d'investissement en Afrique anglophone et lusophone.
C'est le mot de la fin. On se reverra pour une autre émission pour suivre vos aventures au Nigeria. Merci à vous, Mohamed El Khetani, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été le grand invité RFI Jeune Afrique. Cette émission était réalisée par Guillaume Munier et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel écho d'ici, écho d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.